C'est où le jour le jour? Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 2 décembre à Séoul et aujourd'hui la Corée du Sud est entrée d'un pas décidé dans le froid de l'hiver. L'air s'est nettement rafraîchi depuis ce matin, porté par une masse d'air venue du nord et les températures ont chuté sur une grande partie du pays. Le vent s'est renforcé, donnant à cette première vague une vraie saveur d'hiver qui devrait se prolonger pour un temps. C'est dans cette ambiance vive et claire que s'ouvre notre édition de ce mardi. Déjà complet ? Je suis venu de loin pour cette visite, c'est vraiment dommage. Le 26 novembre, vers 15h, un visiteur d'une soixantaine d'années rencontré devant le musée national de Gyeongju exprimait ainsi sa déception. Venu de Séoul avec sa famille, il espérait découvrir l'exposition spéciale consacrée aux 6 couronnes d'or du royaume de Silla, toutes réunies au même endroit. Depuis son ouverture au public le 2 novembre, l'événement attire un flot continu de visiteurs. Selon un responsable du musée, la dernière séance commence à 17h30, mais les billets partent très vite. En semaine, il n'en reste plus après 13h30 et le week-end, ils disparaissent dès la fin de la matinée. Malgré la fin du sommet de l'APEC, l'effet d'attraction de la ville se prolonge et le centre-ville en profite largement. Dans la rue commerçante de Hwanglidan, qui tire son nom de Hwanamdong et de la célèbre rue Gyeonglidan à Séoul, les gens affluaient au point de compliquer la circulation même en pleine semaine. Ce jour-là, la rue était parcourue par des touristes venus de Taïwan, du Vietnam, du Japon ou encore des États-Unis. Ils flânaient, grignotaient quelque chose ou prenaient des photos tout en avançant dans cette artère très animée. Un restaurateur expliquait que la fréquentation avait nettement augmenté depuis l'APEC et que la présence accrue de voyageurs étrangers se sentait immédiatement. Le fameux pain de Hwangnam, devenu encore plus populaire depuis que le président sud-coréen l'a offert à son homologue chinois, continue d'attirer les curieux. Une affichette prévenait d'ailleurs que l'attente atteignait 2 heures pour récupérer sa commande et la file se formait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Même en novembre, habituellement une basse saison, de nombreux hébergements indiquaient une progression des réservations par rapport aux années précédentes et le Hilton Gyeongju connaît lui aussi son petit succès. Donald Trump y avait séjourné une nuit lors de sa visite en Corée du Sud. Il y avait commandé un cheeseburger en demandant une généreuse dose de ketchup et une tranche d'American cheese. Depuis que l'anecdote a été relayée par la presse, l'hôtel propose un Trump Cheeseburger set vendu 35 000 won. L'établissement affirme en écouler entre 70 et 80 unités le week-end et entre 30 et 40 en semaine. La rue de Hwanglidan vient justement d'enchaîner les bonnes nouvelles. Le site a été élu destination de l'année dans le cadre des 2025 Korea Tourism Star Awards, un programme du ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme qui distingue les lieux ayant affiché des résultats remarquables. Selon le jury, la rue de Hwanglidan se distingue par un équilibre harmonieux entre héritage traditionnel et dynamisme plus jeune. Comment les anciens présidents sont-ils perçus aujourd'hui par les citoyens sud-coréens ? Selon une nouvelle enquête d'opinion menée par Gallup Korea et publiée le 28 novembre, Yoon Suk-yeol arrive en tête des réponses négatives, estimant qu'il a commis beaucoup d'erreurs, avec un taux de 77%. En 2021, cette position était occupée par Chun Doo-hwan, ancien chef d'État arrivé au pouvoir après le coup d'État militaire de 1979, désormais deuxième. Derrière, Park Geun-hye, No Tae-woo et Lee Myung-bak, qui est évalué négativement à 46%, Moon Jae-in et Lee Seung-man sont eux aussi jugés plus sévèrement que favorablement. A l'inverse, l'ancien président qui reçoit le plus de réponses positives indiquant qu'il a bien gouverné est Noo Moo-hyun avec un taux de 68%. Seuls 15% des personnes interrogées estiment qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Park Chung-hee, Kim Dae-jung et Kim Yong-sam arrivent dans cet ordre parmi les figures les plus positivement évaluées. Gallup Korea, qui a mené 5 enquêtes sur ce thème depuis 2012, note une évolution notable. Selon l'Institut, la perception de Kim Yong-sam et Lee Myung-bak s'est améliorée au cours des 10 dernières années, leur évolution positive progressant, tandis que les jugements négatifs reculent, ce qui pourrait traduire une certaine réévaluation. L'étude excluait les présidents à la durée de mandat plus courte, comme Yoon Bo-seon et Choi Kyu-ha. Elle a été menée du 25 au 27 novembre par téléphone auprès de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,1 points à un niveau de confiance de 95% et un taux de réponse de 11,9%. Le paysage des compléments alimentaires en Corée du Sud traverse un mouvement inattendu. Le ginseng rouge, longtemps installé au sommet et connu sous le nom de Hongsam, voit aujourd'hui son influence se fragiliser. Le marché a frôlé les 6 000 milliards de won après la pandémie, mais malgré cette expansion, ce produit emblématique occupe une place nettement plus réduite. Les préférences évoluent d'une génération à l'autre et varient en fonction des effets recherchés, ce qui fait reculer l'habitude de compter sur un sachet de ginseng rouge pour tout couvrir. D'après les données publiées le 25 novembre par la Korea Health Functional Food Association, le marché local des compléments alimentaires dans son ensemble devrait atteindre cette année 5 963 milliards de won, ce qui représente une progression de 0,2% en un an. Après un sommet à 6 150 milliards en 2022, la filière avait fléchi à 5 953 milliards l'an dernier avant d'enregistrer aujourd'hui un léger rebond. Dans le même temps, la carte du secteur a été profondément redessinée. Le changement le plus visible concerne le déclin de la racine traditionnelle, longtemps perçue comme l'incontestable numéro 1. Cette spécialité, longtemps dominante après avoir remplacé les préparations végétales des cabinets de médecine orientale, est désormais devancée par des compléments plus ciblés. La part du Hongsam dans les dépenses de compléments alimentaires atteignait 25,9% en 2021. Elle se situe cette année autour de 16%. À l'inverse, la part cumulée des multivitamines et des vitamines unitaires est passée de 13,6% à 18,1%. Au cœur de cette tendance se trouvent les nouvelles habitudes des 20 et trentenaires pour qui les compléments alimentaires ne servent plus à assurer une prise en charge globale de la santé. Ils privilégient des formules rapides et précises comme les vitamines, le magnésium ou les probiotiques censés répondre directement à la fatigue, à la santé intestinale, à l'énergie ou au sommeil. Face à cette érosion, les acteurs de l'industrie multiplient les stratégies de diversification. La Korea Ginseng Corporation, KGC, élargit par exemple ses gammes avec de nouveaux ingrédients issus de la pharmacopée traditionnelle comme le bois de cervidée ou le bois d'aigle. L'objectif est de compenser la stagnation du Hongsam par de nouveaux relais de croissance. Chez la KGC, les ventes à l'export représentaient au troisième trimestre environ 16,3% du chiffre d'affaires, un niveau en légère hausse sur un an. L'entreprise prévoit d'accélérer son implantation aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est. Écoutons à présent une chanson de circonstance. Voici Fire de BTS, un titre qui stimule l'énergie d'un seul coup à la manière du Hongsam dont nous venons de parler.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce mardi 2 décembre 2025 vous est présentée par Maxime Lalo. À Sangnam, une ville métropolitaine dans le Gyeonggi, l'idée d'un robot capable de patrouiller comme une caméra mobile n'appartient plus à la science-fiction. Newbie, conçu par l'entreprise de robotique autonome Newbility, commence à parcourir les espaces les plus animés de la ville. La municipalité a annoncé le 25 novembre que 4 exemplaires sont testés, chacun sur un site différent. La place de la gare de Soyeon, celle de Pangyo, le parc de Sanghi et celui de Yuldong. Ces essais sur le terrain doivent permettre d'évaluer le fonctionnement de l'appareil avant son déploiement officiel prévu l'année prochaine. Newbie est actuellement dans sa dernière étape de vérification technique, une phase destinée à confirmer sa stabilité d'ici la fin de l'année. Jusqu'ici, des démonstrations avaient été menées dans des espaces relativement dégagés, comme les parcs, mais l'expérimentation au cœur d'un quartier commerçant dense se révèle plus complexe en raison de la difficulté du terrain. L'engin détecte les mouvements des passants et ajuste seul sa vitesse et son itinéraire grâce à une fonction d'évitement automatique, ce qui lui permet de se déplacer sans gêner la circulation des piétons. Pour ce projet innovant, la ville a formé un consortium avec le commissariat de police de Bundang et l'entreprise Newbility. Ensemble, ils ont été sélectionnés en mai dernier pour un programme d'essai de dispositifs de services pilotés par l'Institut de promotion de l'industrie robotique du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie. Dans ce cadre, Sangnam a investi 1,2 milliard de won de fonds nationaux et autant de fonds municipaux, soit un total de 2,4 milliards, afin de préparer l'introduction du système et la conception des zones couvertes. Les autorités locales prévoient de vérifier la stabilité de l'autonomie du robot, la précision de sa reconnaissance d'objets et l'adéquation des scénarios de patrouille aux conditions réelles. Elles veulent également affiner les technologies de surveillance en mobilisant les données recueillies en milieu urbain, notamment le flux piétonnier, l'éclairage nocturne ou les obstacles présents dans l'espace. Selon la municipalité, cette période de validation doit lui permettre dès l'an prochain et pour 3 ans de proposer un service de sécurité renforcé que les habitants pourront percevoir concrètement. Un responsable estime que ce robot de patrouille autonome doté d'intelligence artificielle exerce un puissant effet dissuasif rien que par ses déplacements. Avant d'ajouter que Seongnam entend consolider ainsi son image de ville spéciale de la 4e révolution industrielle en s'appuyant sur les technologies de pointe pour protéger ses habitants. Depuis quelque temps, une rumeur étonnante circule et attire l'attention des internautes. Elle avance que le nombre de chamans actifs en Corée du Sud serait passé de 200 000 à près de 800 000, un chiffre supérieur à la population entière de Songpa, l'arrondissement le plus peuplé de Séoul. Un tel nombre peut impressionner, mais correspond-il vraiment à la réalité? L'agence de presse Yonhap s'est intéressée à ce sujet pour voir où se situe réellement cette activité et pour comprendre si la hausse évoquée en ligne reflète une réalité tangible. Elle a également exploré la manière dont ce secteur fonctionne aujourd'hui. Les recherches montrent qu'aucune preuve solide ne permet d'affirmer que le nombre de chamans aurait atteint 800 000. Il n'existe pas de statistiques officielles puisque ce nombre d'entre eux exerce sans déclaration commerciale. Les seules données publiques permettant d'esquisser une estimation proviennent des registres gouvernementaux liés aux activités professionnelles. Elles indiquent une légère hausse du nombre de travailleurs dans ce domaine, mais restent très éloignées de l'explosion relayée en ligne. L'étude s'appuie également sur les données de l'enquête nationale sur les entreprises réalisées par l'agence des données des statistiques. En 2023, celle-ci recensait environ 10 512 personnes actives dans le domaine de la divination et des services associés, ainsi que 9 895 lieux d'activité. En 2020, ces chiffres étaient de 9 692 personnes et 8 942 structures. Sur 3 ans, la progression demeure très limitée, autour de 8% pour les travailleurs et de 10% pour les établissements. Un spécialiste d'un rite inscrit au patrimoine culturel immatériel observe que le milieu fonctionne avec très peu de transparence et souligne que d'autres professions affichent généralement leur formation et leur expérience. Mais dans le monde chamanique, les professionnels ne dévoilent ni les divinités auxquelles ils se rattachent, ni la durée de leur apprentissage. Selon lui, les sortes de vidéos non vérifiées sur YouTube ces 2 ou 3 dernières années a multiplié les personnes qui imitent le rôle de chaman, donnant l'impression d'une croissance fulgurante qui pourrait à terme poser de sérieux problèmes. Les dérives existent déjà. En juin dernier, un chaman actif à Busan a été condamné à une peine de prison avec sursis pour escroquerie. Il avait soutiré de l'argent et une connaissance en affirmant que sa famille subirait un malheur si celle-ci ne recevait pas un rituel d'initiation. Un autre praticien de 40 ans d'expérience insiste sur la nécessité d'exercer dans un cadre légal, désormais plus strict. Il a lui-même enregistré son activité et gère un lieu de culte déclaré. Selon lui, cette pratique est aujourd'hui suffisamment visible pour être traitée comme une véritable activité commerciale, ce qui nécessiterait des contrôles fiscaux afin d'encadrer un domaine où circulent désormais d'importantes sommes d'argent. En Corée du Sud, il existe une expression bien connue qui dit qu'on est assis sur un coussin d'argent pour décrire quelqu'un qui devient très riche, comme si une personne pouvait littéralement s'asseoir sur des billets. Et depuis peu, cette image ne relève plus seulement de la métaphore. Le 23 novembre, la Korea Minting and Security Printing Corporation a présenté 2 nouveaux objets qui contiennent de vrais fragments de billets. Leur nom, un coussin d'argent et un porte-monnaie d'argent. Évidemment, ils ne contiennent aucune somme réellement utilisable. Depuis mars dernier, l'institution publique recycle les résidus générés lors de l'impression des billets et lance une série de produits dérivés autour de la monnaie. Après le stylo, le porte-clés, l'enveloppe décorée de fragments d'argent, ce coussin et ce mini portefeuille viennent enrichir la collection. Ces nouveautés ont aussi pour vocation de rendre hommage à des pièces dont la fabrication a pris fin. Le coussin reprend ainsi le motif de la pièce de 500 won et arbore un revêtement en nylon lavable. À l'intérieur se trouvent 100 grammes de résidus de billets de 50 000 won, soit l'équivalent de 5 millions de won avant destruction. Le porte-monnaie, pour sa part, reprend l'esthétique de la pièce de 100 won. Il est conçu en cuir synthétique argenté et contient 10 grammes de fragments représentant environ 500 000 won. Cet accessoire se présente comme un petit porte-clés avec une sangle de poignée pour le transporter facilement. La campagne de financement participatif est la deuxième du genre pour la Korea Minting and Security Printing Corporation après le succès de son stylo doré lancé en juillet dernier qui avait atteint 987% de son objectif. Le crowdfunding est ouvert sur la plateforme Wadis jusqu'au 12 décembre. Les prix sont de 45 500 won pour le coussin, 27 100 won pour le porte-monnaie et 68 000 won pour le lot, un tarif environ 11% plus avantageux que l'achat séparé. Après la clôture, les produits seront vendus au prix normal sur la boutique en ligne de l'institution. Ce projet répond aussi à une volonté écologique puisque près de 500 tonnes de billets endommagés ou de pièces défectueuses sont détruites chaque année, un processus particulièrement lourd pour l'environnement. Son président, Son Chang-hoon, souligne qu'il s'agit d'un projet porteur de sens qui réinvente l'usage des résidus monétaires pour leur donner une nouvelle vie, avant d'ajouter que l'institution cherche à développer des initiatives associant économie circulaire et valeurs sociales. Et juste avant de passer le micro à Valentine Philippe pour Carte Postale, je vous propose d'écouter Rich Man d'Espa.
Si vous cherchez un endroit où se détendre tout en partageant un moment créatif avec d'autres, direction Yeonhidong, un quartier calme et charmant de Séoul. Là se trouve un café tricotage où les aiguilles s'activent et les conversations naissent autour d'un café ou d'un thé. En entrant, vous êtes accueilli par une ambiance chaleureuse et créative. Les murs sont décorés de pelotes de laine multicolores, d'échantillons de tricot et de petites créations artisanales. Les tables sont réparties de manière conviviale pour que chacun puisse travailler sur ses projets, tout en échangeant avec les autres. Ici, le café devient un lieu d'apprentissage, de partage et de créativité. Les visiteurs viennent pour différentes raisons. Certains cherchent un moment de calme, d'autres veulent apprendre les techniques de tricot ou simplement échanger des astuces. Des ateliers sont proposés régulièrement, certains guidés par des experts, d'autres sous forme de rencontres informelles. Ce qui rend ce café tricotage vraiment spécial, c'est la communauté qui s'y forme. Les habitués se saluent, discutent de leurs projets ou donnent des conseils aux débutants. Même si vous venez seul, il est facile de se sentir intégré et d'échanger avec d'autres passionnés. Les pelotes et les aiguilles deviennent un langage commun, brisant la barrière de la timidité ou de la solitude. Le café propose également une sélection de boissons et de pâtisseries, faites maison, idéale pour accompagner une session de tricot. Vous pouvez passer des heures à travailler sur votre projet, tout en dégustant un café chaud, dans une atmosphère détendue et inspirante. Le café tricotage à Yeonhidong a été fondé par des passionnés de tricot, souhaitant créer un lieu où la créativité se partage librement. L'idée était de combiner le plaisir d'un café cosy avec l'apprentissage et la pratique du tricot. Chaque détail, des pelotes soigneusement choisies, aux outils mis à disposition, reflète la volonté de rendre la créativité accessible à tous. Les visiteurs repartent souvent avec une sensation de bien-être, comme si quelques heures passées ici avaient rechargé non seulement leur inspiration, mais aussi leur énergie personnelle. Dès que l'on s'y installe, on est enveloppé par l'odeur chaleureuse du café. Le toucher doux des pelotes de laine et le doux cliquetis des aiguilles. Les couleurs vives des fils stimulent la créativité, tandis que les conversations légères et les rires créent un fond sonore apaisant. Même quelques minutes suffisent pour se sentir détendu et inspiré, prêt à créer ou simplement à profiter du moment. Le barista et l'équipe sont toujours disponibles pour aider, que ce soit pour choisir un fil ou expliquer une technique. Les ateliers et événements spéciaux sont annoncés sur les réseaux sociaux et se déroulent en général le week-end. Cela rend chaque visite unique, car il est toujours possible de découvrir quelque chose de nouveau ou de participer à une activité collective. Pour profiter pleinement du café, il est conseillé de venir avec un projet en tête ou simplement l'envie de découvrir le tricot. Les ateliers sont idéaux pour les débutants qui souhaitent apprendre, tandis que les habitués peuvent profiter de l'espace pour avancer sur leur création personnelle. Choisir une table près de la fenêtre permet de bénéficier d'une lumière naturelle parfaite pour le travail minutieux du tricot, tandis que les coins plus intimes sont parfaits pour se concentrer. Les visiteurs partagent astuces et expériences, échangent des idées pour de nouveaux projets, ou simplement profitent de la compagnie des autres passionnés. Même en silence, le lieu respire la communication et la collaboration, faisant de chaque visite un moment enrichissant, tant sur le plan créatif que social. Que vous soyez débutant ou expert, barista ou simple visiteur curieux, le café Tricotage à Yeonhidong est un espace où la créativité devient sociale. On repart avec de nouvelles compétences, des projets terminés, mais surtout avec des souvenirs chaleureux et des rencontres inattendues.
Ainsi se termine votre émission Séoul au jour le jour. C'était Ha Jin-hwa à la rédaction, Maxime Lalo au micro et Kim Hong-joo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de KBS World Radio.